Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans Le Temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission placée sous le signe de l'Amérique latine, vue comme une terre marquée à la fois par la littérature et par la violence, avec deux auteurs qui lui consacrent chacun leur livre, Santiago Gamboa et Alexis Génie. Bonjour Santiago Gamboa.
Bonjour Christophe.
Vous êtes à ma droite, vous êtes l'un des écrivains latino-américains les plus importants. Vos livres sont traduits dans 17 langues, parmi lesquelles Nécropolis ou le syndrome d'Ulysse. Il est un peu question d'Ulysse d'ailleurs dans ce nouveau livre, de la question du retour, puisqu'il s'agit de retourner dans l'obscure vallée qui serait la dénomination de la Colombie, votre pays natal. Le livre paraît aux éditions Métellier, il est traduit de l'espagnol par François Gaudry. Et vous imaginez dans un futur proche une Colombie où la paix serait désormais revenue. Je précise que vous avez participé d'ailleurs aux négociations avec les FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. Avec Retourner dans l'obscure vallée, vous imaginez qu'une poignée d'exilés prend le chemin du retour au pays natal. Et ces exilés vont avoir un certain nombre de destinées qui se heurtent dans ce livre. Il est question d'un homme que l'on appelle le consul. Vous avez vous-même été diplomate. Il y a une femme que j'aime beaucoup, une poétesse, marquée par la violence, notamment dans sa jeunesse, une violence extrême à Cali, donc en Colombie. On croise aussi un homme d'église au passé paramilitaire inavouable. Différents personnages qui sont différentes figures unifiées sous celle de Rimbaud, le poète, qui lui comme une sorte de phare dans ce livre. Il n'empêche que quand on vous lit Santiago Gamboa, on est marqué par la terrible violence qui s'exerce et que vous exercez sur vos personnages. Le Nouveau Monde, comme on le disait, c'est d'abord une terre marquée par la violence.
Oui, je pense que la violence en général, c'est même aussi une expérience culturelle. Et pas peut-être seulement une région du monde, parce que on peut penser que l'histoire d'Occident commence avec une guerre, la guerre de Troie. Parfois, je me demande si cette guerre n'a pas encore fini. Et ça se déplace. Et il y a eu énormément de violence dans les dernières années, dans la région de l'Amérique latine, bien sûr. Mais la littérature est toujours là pour essayer de comprendre la violence, lui donner un sens.
Donc retourner finalement dans l'obscure vallée, c'est prolonger la guerre de Troie, ses conséquences?
Oui, en fait, on peut même penser que la violence, c'est un passage d'une situation à une autre. Dans la région latino-américaine, même dans mon pays, là maintenant, on est en train de commencer une nouvelle période de paix. Il a fallu passer par 50 ans de violence. Et donc maintenant, on se prépare pour une espèce de deuxième indépendance.
Bonjour Alexis Génie.
Bonjour.
Prix Goncourt 2011 pour l'art français de la guerre. Vous revenez à la guerre et au roman avec La conquête des îles de la terre ferme. C'est un roman où vous tentez de répondre à la question que tout le monde se pose, n'en finit pas de se poser, malgré Octavio Paz, malgré Carlos Fuentes, malgré un certain Diaz del Castillo dans Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne, et qui était peut-être Hernán Cortés lui-même. C'est quoi cette question? Eh bien, comment une bande de soldats espagnols a-t-elle pu soumettre aussi rapidement un immense empire qu'était l'empire aztèque? Qu'a-t-il bien pu se passer en termes de choc, pas seulement militaire? Todorov d'ailleurs avait parlé d'état de sidération, pour que ces hommes qui ne connaissaient pas ce pays viennent à bout d'une telle civilisation qui n'était pas une civilisation réputée pacifique, qui faisait d'ailleurs volontiers la guerre. Et c'est le sujet de votre livre qui prend le point de vue d'un narrateur nommé Juan de Luna, qui est un hidalgo, un seigneur d'Estrémadour, tout proche d'Hernán Cortés, il en est même son secrétaire, Cortés l'appelle innocent. Il est devenu riche, ce Juan de Luna, il possède des terres dans ce nouveau monde, mais il voit devant lui la population indienne décliner, se laisser mourir, refuser d'avoir des enfants. Il veut savoir ce qui s'est passé, alors il ouvre ses livres, il ouvre ses souvenirs et il nous raconte ce que fut cette épopée, il faut bien l'appeler épopée, cette progression des conquistadors à la rencontre du souverain aztèque Moctezuma ou Montezuma d'ailleurs, si génie, parce qu'on voit les deux.
En fait, tous les termes aztèques ont été hispanisés parce que bon, le Nahuatl n'est pas facile à prononcer, il y a beaucoup trop de lettres. Donc il y a la version espagnole qui est Montezuma.
Voilà. Et ce qui frappe dans votre livre, comme je le disais avec le livre de Santiago Gamboa, c'est que, bien sûr, il y a à la fois des teintes très fauves, très or, des paysages, la jungle, les armures, les batailles que vous décrivez. Mais ce qui frappe, c'est cette terrible violence, les têtes qu'on tranche, les rivières de sang que l'on répand, les forêts de pics des conquistadors où s'empalent les guerriers aztèques. Vous décrivez tout cela à la manière d'un peintre de bataille, dont on a l'impression qu'il souhaite montrer un déchaînement de violence inouïe. Quand on vous dit « nouveau monde », Alexis Génie, c'est aussi la violence qui vous frappe d'abord. C'est cette violence-là que vous vouliez décrire ?
Oui, le choc de la conquête a été terrible. Bon, les civilisations du Nouveau Monde ont quasiment disparu, à la fois à cause de la violence de la conquête, mais aussi de cet inattendu qui a été la maladie. C'est-à-dire que la population du Mexique, en un siècle, a diminué de façon drastique. On pense qu'il y avait à peu près 25 millions de personnes vivant dans le Mexique central. C'est à peu près autant qu'en France de l'époque. Donc c'était vraiment un pays extrêmement peuplé, extrêmement organisé. Un siècle plus tard, on estime qu'il en restait 1 million. Alors c'est des estimations, on n'a pas vraiment compté. Mais en tout cas, l'ordre de grandeur est extraordinaire. Un monde a été balayé, a disparu. Une part de l'humanité a été balayée. Et il en reste des vestiges très puissants, il en reste des fantômes. Mais il y a quand même eu cette destruction de grandes civilisations et d'une part du patrimoine humain.
Vous souscrivez à l'analyse de Santiago Gamboa sur la guerre de Troie qui n'aurait pas fini et finalement dont les romanciers devraient continuer à s'emparer pour écrire cette éternelle histoire de la violence.
C'est vrai que la littérature sert aussi à ça, c'est-à-dire à essayer de pas être emporté par la violence et de faire que le langage arrive à canaliser un petit peu notre violence intrinsèque, violence individuelle et violence collective.
Merci à tous les deux, Alexis Génie et Santiago Gamboa, d'être avec nous pour cette heure du temps des écrivains. Alors, je vous ai réunis tous les deux sur la fois de la lecture que j'ai faite de vos livres, mais aussi d'une intuition, alors je peux complètement me tromper. La conquête des îles de la terre ferme, votre livre Alexis Génie, et Retourner dans l'obscure vallée, votre livre Santiago Gamboa, mettent en effet en regard deux Amériques latines éloignées dans le temps, hein, puisqu'on est au XVIe siècle ou au XXIe, au début du XXIe chez vous, Santiago Gamboa. Elles sont éloignées dans le temps, mais elles sont héritières, semble-t-il, l'une de l'autre, et traversées en tout cas par des tensions, par des violences, par des aspirations qui se font écho. Et je me suis demandé, est-ce que cette terre d'Amérique latine, ce nouveau monde, est-ce que son histoire, peut-être à cause de ces conquêtes terribles qu'ont été les épopées des conquistadors, qui sont des épopées prédatrices aussi, à cause de sa beauté peut-être aussi, de cette terre fertile, est-ce que cette terre ne secréterait pas finalement une violence particulière qui serait presque du pain béni pour les romanciers ? Santiago Gamboa.
En fait, oui, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Pour moi, l'élément principal, c'est le fait que dans toute l'Amérique latine, on parle de républiques très jeunes. Et on parle presque dans tous les cas de 200 ans d'histoire républicaine. Et oui, disons, l'histoire de la colonie, c'est encore, on ajoute encore 3-4 siècles plus ou moins. Donc, on parle de pays et de sociétés très jeunes. Et n'oublions pas, si on voit l'Europe, si on voit l'Asie, des vieilles sociétés, combien de temps et combien de sang et combien de violence a fallu pour arriver à construire des sociétés qui se regardent les uns aux autres et tranquillement, sans l'idée de l'ennemi, sans l'idée de la conversion religieuse qui était bien avant dans le 19e, 18e siècle, et sans voir dans l'autre un agresseur. Mais ici, on parle en Europe, une région qui a eu, il y a 75 ans, à peu près 50 millions de morts, dans une des guerres, peut-être dans l'histoire de l'humanité, plus grave. Et après ça, aujourd'hui, on vit dans une grande harmonie.
Et encore.
Et si on fait la comparaison avec des républiques latino-américaines avec 200 ans, c'est des républiques très jeunes qui sont toujours en train de chercher un langage dans lequel tout le monde se reconnaît, de trouver une espèce de narrative historique et psychologique, une identité, surtout étant donné que c'est des pays avec des origines multiples. Donc tout ça doit petit à petit rentrer dans le jeu. Et parfois, c'est la violence qui l'emporte, bien sûr.
Donc en fait, quand on pense à ce continent latino-américain, dont on imagine qu'il est le produit d'une très longue histoire, avec toutes ces civilisations aztèques, si on va vers l'Amérique centrale aussi, les Mayas, enfin tous ces peuples extrêmement anciens et puissants, vous nous dites au contraire que non, il faut oublier tout ça, qu'en fait c'est un monde très jeune, en fait, et pas du tout un monde très ancien.
Non, c'est un monde ancien, mais le problème c'est que le rapport entre le monde moderne et le monde ancien a été coupé. Et comme Alexis disait tout à l'heure, il y a eu une espèce de disparition d'un monde. Et ils ont resté un peu une petite pourcentage de cette population qui est encore dans certains pays, comme la Colombie par exemple, qui n'a un point sur ce qui est la vie politique, la vie économique un petit peu, mais qu'ils n'ont pas vu comment, contrairement au Mexique, par exemple. Je pense que le Mexique, à différence de la Colombie, et même le Paraguay aussi, c'est des pays qui ont un rapport beaucoup plus fluide avec son passé préhispanique. Et la Colombie étant un centre de l'Espagne, Bogota c'était un vice-royaume de l'Espagne, alors là, la massacre contre les Indiens était beaucoup plus fort que peut-être dans d'autres régions comme le Pérou, par exemple, ou l'Équateur, qui était plus éloigné, un petit peu plus éloigné. Mais aujourd'hui, le rapport avec ces passés, c'est très ambigu. Et ce passé fait partie de la société contemporaine, avec les immigrants qui sont venus dans les différentes migrations qu'il y a eu vers l'Amérique, l'Amérique du Sud, et aussi avec la population métisse et créole, qui est sorti du rencontre entre les Espagnols et les Indiens. Donc, tous ces mélanges-là, c'est un mélange de gens avec des cultures différentes, des idées, des imaginaires différents de ce qui est l'identité et l'État. Et donc, à partir de là, la violence, c'est la recherche de la prédominance. Et il y a aussi toujours, bien sûr, un côté économique, non? Bien sûr, avoir le pouvoir, c'est avoir le pouvoir économique.
Mmh. Alexis Jani.
Alors c'est vrai que on a l'impression en voyant l'Amérique latine qu'il y a quelque chose de très très violent. Bon, il faut pas, comme dit Santiago, sous-estimer la violence européenne hein, qui est très très forte également.
Enfin, c'est tout le sujet de votre livre.
Tout à fait. Alors ce qu'il y a de caractéristique en Amérique latine, c'est ce traumatisme de l'origine, c'est-à-dire que la conquista a été ultra violente et bon a brisé quelque chose, a brisé le fil un peu du temps dans les sociétés indiennes. Et puis il s'est créé des sociétés très inégales. Inégalitaire, parce que c'est des sociétés plus ou moins féodales, parce que l'Espagne de l'époque n'était pas un pays moderne, c'était vraiment un pays féodal, et qui a trouvé là, un peu par hasard, un moyen de se perpétuer. Et ça a été une société de grands domaines et de petits peuples sans pouvoir, ce qui a créé en permanence des troubles sociaux très très violents. Et puis il y a aussi cette mise en scène de la violence au Mexique, ce qui est fascinant, c'est par exemple le christianisme sanglant. On voit dans des églises des statues de Christ avec des plaies partout, mais comme s'il avait été liquidé à la calage par des narcos. C'est très impressionnant. Et il y a quelque chose entre les Aztèques et les Espagnols de l'époque baroque, il y a une sorte de rencontre. Ils sont bien d'accord pour mettre en scène la violence.
C'est intéressant ce que vous dites, Alexis Jani, quand vous parlez des narcos, parce que justement, quand on parle d'épopée, puisqu'on parlait de la guerre de Troie, il y a une écriture de l'épopée chez les narcocorridos, les chansons de gestes, justement. Vous parliez de société féodale, Alexis Jani.
Et même avec la littérature aussi, il y a même la littérature a passé par là, a fait un peu la narration de ces personnages qui sont un peu des anti-héros, et dans les cas de la Colombie, et maintenant du Mexique, parce que le phénomène de la mafia, de narcotrafic, maintenant s'est déplacé vers le Mexique, qui a pris, c'est le typique cas capitaliste dans lequel l'intermédiaire, finalement, finit par s'approprier de tout le business complet.
Et je disais, les narco-corridos, ce sont ces chansons de gestes en l'honneur des narco-trafiquants, des grands chefs du trafic de drogue, à la manière, finalement, des chanteurs de gestes et des troubadours, des trouvères qui chantaient, justement, la gloire des grands chefs. Alexis Jani, on parlait tout à l'heure de la guerre de Troie. La guerre de Troie, finalement, les deux belligérants, ce sont des mondes proches. D'ailleurs, ce sont les mêmes dieux, même si les dieux se séparent entre ceux qui soutiennent les Troyens et ceux qui soutiennent les les Achéens. Il s'agit là quand même du premier choc frontal de la mondialisation. Mmh. Vous le dites très bien d'ailleurs, il y a le dieu des chrétiens et puis il y a tous ces dieux païens, Huitzilopochtli, Quetzalcoatl, toute cette cohorte de dieux. Il y a aussi là-dessus presque une mondialisation sur le plan mystique qui se déroule avec cette conquiste.
C'est vrai que là, il y a une rencontre extraordinaire entre deux mondes qui se comprennent pas. Et qui n'ont même pas les moyens de se comprendre, en fait. De chaque côté, c'est-à-dire que les Espagnols ne comprennent absolument pas cette civilisation indienne, sa pensée. Et les Indiens regardent avec stupéfaction les Espagnols et ne comprennent pas vraiment qui sont ces gens-là, puis d'abord même d'où ils viennent. Parce qu'ils n'avaient pas imaginé qu'il puisse exister autre chose ailleurs. Voilà, ils habitaient l'Anahuac, c'est-à-dire la grande terre entourée d'eau. Et puis après, au dehors, il n'y avait rien. Et là, donc, des gens arrivent, donc ils se posent la question de qui c'est, d'où ils viennent, à quel dieu ils correspondent, et ils ne comprennent pas. Ce qui me fascinait aussi dans ce récit, c'est ça, c'est-à-dire se faire une sorte de roman de science-fiction. C'est arriver sur une autre planète, c'est arriver dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Et puis, ce qui est beau dans l'histoire du Mexique, même si ça se termine mal à la fin, c'est que ça a duré suffisamment longtemps, ça a duré environ 2 ans, la conquête, et il y a eu l'occasion de se voir un peu. Bon, à la différence du Pérou, où dès la première rencontre, Pizarro fait tuer tout le monde. Là, il y a eu cette possibilité peut-être qu'il y aurait eu quelque chose de possible. Mais le Mexique est basé là-dessus. L'imaginaire mexicain est basé sur l'idée du métissage. On fait sans arrêt référence à ce passé indien, mais dans le Mexique contemporain, il y a cette idée-là qu'il y a eu quand même quelque chose qui s'est rencontré. C'est le Clésio qui raconte ça aussi, la mélancolie aztèque. Voilà, ce qui aurait été possible. Et puis non, donc là, là aussi, la littérature écrit sur ce qui aurait été possible.
Il y a un point commun aussi entre vos livres et quand on parle de la violence, c'est que la violence, elle s'exerce notamment dans vos 2 livres sur les femmes. On assiste à une grande brutalité, au viol des femmes indiennes qui sont réduites en esclavage dans votre livre Alexis Génie. Chez vous, Santiago Gamboa, c'est aussi un viol, hein, dès le départ, le viol de Manuela. On parle de prostitution, de dégradation sexuelle. Même Rimbaud, d'ailleurs, on le lira tout à l'heure, est violé dans votre livre, Santiago Gamboa. Comment vous expliquer, d'ailleurs, la récurrence de ces violences, malgré la distance temporelle qui sépare vos 2 romans? Pourquoi avoir choisi de mettre l'accent sur la violence aussi faite aux femmes?
Oui, et je pense que la femme en général, elle est victime pour 2 fois. Quand il y a une société qui est agressée par une autre, par une armée, tout le monde a une catégorie de victimes, mais la femme très souvent a une 2e catégorie, qui est celle de la violence sexuelle. Et étant donné que traditionnellement la guerre est faite par des armées d'hommes, et après la femme traditionnellement a été aussi vue comme une espèce de prix qui est les vainqueurs.
Ça, on revient à la guerre de Troie encore. On partage les femmes.
On se partage les femmes. Ouais. Voilà. Et là, c'est une condition qui subit pour 2 fois la condition des victimes.
Alexis Venis.
Oui, tout à fait. Et alors, aussi, d'un point de vue historique, les conquistadors, c'était une bande de types qui traînaient à Cuba, qui étaient des hommes essentiellement, et qui étaient là dans une sorte d'indécision où aller, que faire, quoi conquérir. Ils ne connaissaient pas la géographie de leur environnement. De temps en temps, ils se lançaient une expédition. Ce ne sont pas des soldats, c'est un peu le Far West. C'est des types qui sont venus là faire fortune. La couronne d'Espagne ne s'intéresse absolument pas à ça. C'est vraiment des entreprises totalement privées. Donc, il y a une bande de 500 hommes qui arrivent sur la côte du Mexique et qui fantasment sur les femmes. Parce que ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas vu. Et puis ils imaginent que les Indiennes sont beaucoup plus libres sexuellement, puisque bon, elles sont moins vêtues que les femmes espagnoles. Et puis en plus, du côté indien, semble-t-il, d'après ce qu'on peut voir dans des chroniques d'époque, on voit que finalement les femmes, elles ont une place extrêmement précise. Les femmes, elles servent à filer du coton et à cuire le maïs, et elles peuvent servir de cadeau. On s'échange des femmes, et d'ailleurs, une des premières alliances des conquistadors avec un peuple indien, on leur a donné 20 femmes pour faire le pain, puisque c'est que des hommes, hein, il faut quand même qu'ils mangent. Et ça, c'est assez fascinant de voir que les femmes sont objets dans la société indienne et dans la société espagnole, et c'est vrai que c'est elles qui sont objets de la violence. D'où la figure fascinante de Marina de Malitzin, cette femme qui a été la maîtresse de Cortés, qui a été la mère de son enfant, qui a été le premier métis et qui a été reconnue par Cortés, qui a été la traductrice.
Et elle c'est intéressant, d'ailleurs, pour un écrivain.
Complètement, elle est totalement unique, en fait, cette femme, parce qu'elle prend la parole. Et les Indiens sont effarés de voir qu'une femme ose prendre la parole devant les hommes. Et je me dis, alors là, je projette totalement, mais je me dis que cette femme, elle a vécu quelque chose de très très fort. Elle a vécu un moment de, finalement, de libération. C'est-à-dire qu'enfin, elle avait une place. Même si ça n'a pas duré, même si elle pouvait avoir la parole, alors que toutes les femmes de cette histoire ne l'ont pas.
Oui, et je voudrais ajouter quelque chose, parce qu'en fait, la colonisation et la conquête espagnole a été marquée par ça, ce que tu viens de dire, Alexis, à différence, par exemple, de celle des Anglais et dans l'Amérique du Nord. Parce que, justement, c'était des hommes seuls. Donc, là, et ça a produit le métissage. Que c'est aujourd'hui la caractéristique de Rio Bravo jusqu'au sud. C'est un nouveau monde avec une nouvelle société, voilà. Alors que dans l'Amérique du Nord, c'était des familles qui se déplaçaient. Donc les hommes étaient entourés des... Bon, bien sûr, il y a eu de la violence aussi. Ils ont tué presque tous les Indiens, beaucoup plus qu'au sud, que dans la région de l'Amérique du Sud. Parce que dans les régions de l'Amérique du Sud, justement, les Espagnols, étant donné qu'ils avaient des rapports et qu'ils faisaient des familles avec... les femmes indiennes, les choses quand même sont un petit peu changées, ça sont un peu différentes.
C'est intéressant que vous parliez de métissage, on va plonger dans vos textes, puisque ce sont des textes d'ailleurs métissés. Il est question de Rimbaud, la figure de Rimbaud qui s'invite dans la géographie, dans l'imaginaire de chacun de vos personnages, Santiago Gamboa et Alexis Génie, vous mêlez des chroniques indiennes à la chronique occidentale du conquistador qui apparaît en italique dans le texte. On va y revenir. On commence avec vous, Santiago Gamboa, et retourner dans l'obscure vallée qui paraît aux éditions Métellier. Mais d'abord, on écoute votre choix musical. Vous avez choisi Tintin Deo de Dizzy Gillespie. Tintin Deo de Dizzy Gillespie, c'est le choix musical de Santiago Gamboa, l'auteur colombien, publié Retourné dans l'obscure vallée chez Métellier. Pourquoi ce choix musical, Santiago Gamboa?
J'aime beaucoup le jazz, parce que, bon, pour des différentes raisons, mais il m'accompagne beaucoup quand j'écris. Et puis cette chanson, en fait, cette pièce spécialement, il y a un bar à Cali, la ville où je vis maintenant, qui s'appelle le Tintin Deo. Et donc, j'ai le plaisir d'aller peut-être un week-end à boire un verre et voir danser les gens.
Alors, vous publiez, je le disais, chez Métellier, ce nouveau livre, Retourné dans l'obscure vallée, où vous imaginez qu'une poignée d'exilés colombiens prend le chemin du retour, donc retourne au pays natal. Leurs destins vont se heurter. Il y a un homme qu'on appelle consul, vous-même, je le disais, avez été diplomate. Il y a une femme, une poétesse, qui a été marquée par une jeunesse extrêmement violente, où il est question de viol, d'abus sexuels, de drogue aussi. D'ailleurs, elle était au couvent, enfin dans une sorte de pensionnat religieux de jeunes filles. Il y a un homme d'église qui a été aussi paramilitaire, passé qu'il ne peut pas avouer. Et puis Tertulliano, par exemple, une sorte d'inquiétant philosophe messianique autoproclamé, qui harangue les foules, qui en appelle d'ailleurs à la violence, car on ne peut pas être mou, dit-il, dans le monde d'aujourd'hui. Et ce consul, diplomate, ça commence à Madrid, donc pas dans le Nouveau Monde, mais dans le Vieux Monde. comme dirait Emmanuel Macron. Il est dans une chambre d'un hôtel de Madrid. Une femme lui a demandé de l'attendre dans cette chambre. Elle n'arrive pas et il suit à la télévision les images d'une prise d'otage que vous avez inventée. Hein, prise d'otage à l'ambassade d'Irlande, donc à Madrid, revendiquée par un groupe qui se réclame de Boko Haram. Peut-être la preuve que la Colombie n'a plus l'apanage du pire, finalement, en matière de violence. Et ce personnage se dit qu'il est temps de retourner dans l'obscure vallée. Je le disais, c'est la façon que vous avez choisi de dire le pays natal. Vous utilisez, pour caractériser justement ce pays, cette image, hein, l'obscure vallée. Ça vient d'un poème de William Blake. « L'homme devrait travailler et s'attrister, apprendre, oublier et retourner dans l'obscure vallée d'où il est venu pour reprendre sa tâche. » Pourquoi avoir choisi une caractérisation, alors certes c'est William Blake, mais aussi noire, aussi obscure, avec l'idée de vallée qui nous enfermerait presque?
Oui, j'ai retrouvé dans cette citation presque la totalité d'une vie immigrante. Quelqu'un qui s'en va, qui a une nostalgie, une tristesse, qui doit apprendre des choses. Et puis il y a quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est quand il dit apprendre et ensuite oublier. Parce que c'est une succession de verbes, travailler, s'attrister, apprendre et oublier. Ça me fait penser à Borges quand il disait que pour incorporer complètement quelque chose, il faut d'abord l'apprendre et ensuite l'oublier. Et il dit, l'oubli fait partie de la mémoire. Donc, dans ces cas, je vois une ligne, presque un cercle, d'une vie migrante, que c'est un peu la vie que moi j'ai eue. Et c'est pour cela que tout ce qui est de voyageurs, comme Rimbaud, de gens qui partent, qui laissent des choses, des solitaires qui vagabondent un peu le monde, c'est une musique qui est pour moi familière.
Mais pourquoi obscur?
Ah, ça c'est...
Enfin, c'est Blake, mais vous avez choisi
de le prendre
à votre compte.
Oui, en fait, il y a une citation de Roberto Bolaño dans laquelle je trouve un peu la même musique. Et c'est l'idée d'une vallée obscure et vide, dans laquelle avant il y a eu une certaine vie, il y a eu quelque chose même de gai, un certain bonheur qui est disparu. Et que maintenant, quand on arrive dans cette vallée, il y a la solitude, c'est obscur, et il y a un peu l'écho seulement, de tout ce qui est resté derrière.
Ce que Baudelaire appelait le vert paradis des amours enfantines,
oui.
C'est ça? Si je ne me trompe pas, je parle sous votre contrôle.
Mais quoi que, dans le livre de Santiago, c'est pas vraiment le paradis des amours enfantines. C'est justement, on comprend bien que cette Colombie, entre les différentes sortes de violences terribles qui s'y exercent, oui, il y a quelque chose d'une vallée obscure. Et c'est vrai que quand les personnages reviennent, ils reviennent avec l'espoir que ça soit enfin passé. Alors, j'ai beaucoup aimé cette espèce de vision ironique de l'institution de la République de la Bonté, où finalement, après s'être entretués les uns les autres, tout le monde va tomber dans les bras les uns des autres en se pardonnant. C'est assez ironique sous votre plume. Mais après, on a que ça.
Alors, est-ce que c'est ironique, pardon, Santiago Gamboa, parce que je disais, vous avez d'ailleurs participé aux négociations contre les FARC. Et je me suis demandé, qu'est-ce que venait faire? Certes, vous avez été diplomate culturel, mais qu'est-ce que venait faire un écrivain dans ces négociations entre un État et une milice paramilitaire trafiquante de la drogue aussi?
En fait, ma participation...
Et les idéaux.
Oui, mais en fait, ma participation n'a pas été directe. Moi, je ne fais pas partie des gens qui négociaient, parce que ça a été quelque chose de très officiel, etc. Ce que j'ai fait, c'est écrire un espèce d'essai sur la guerre et sur la paix. Et sur l'histoire de la guerre, sur l'histoire de la paix.
Guerra y paz.
Guerra y paz, avec le titre de Tolstoï.
Ouais, vous avez piqué le titre à Tolstoï.
J'ai piqué le titre, oui, parce que je me suis dit, bon, c'est deux mots qui appartiennent pas à lui. Et donc, j'ai fait une espèce de longue conversation avec les lecteurs, en partageant certaines lectures, et surtout pour essayer de faire comprendre aux gens qui lisait ce livre, que ni la guerre était quelque chose d'extrêmement fixé sur nos sociétés colombiennes, que c'est quelque chose qui est arrivé aux êtres humains depuis le début de l'histoire. Et la paix est aussi quelque chose qui vient après, qui est une construction toujours entre deux. La paix, c'est pas naturel dans l'homme, alors que la violence, si, elle est naturelle. C'est pas moi qui le dis, c'est même Kant. Quand il dit la paix, c'est toujours un état construit entre deux. Et c'est la guerre, ce qui est naturel dans l'être humain. Donc, ce sens de partager ces idées m'a poussé à écrire un livre.
Qui n'est pas traduit en français encore, hein, Guéret?
Non. Ouais. C'est un long essai dans lequel j'essaye de faire une conversation avec les lecteurs, en lui montrant un peu qu'est la situation de la Colombie. Enfin, qu'il n'y a pas une espèce d'agression métaphysique contre le pays. C'est quelque chose qui est arrivé dans l'histoire de l'humanité plusieurs fois.
Précisément, Alexis Génie parlait de cette ironie, peut-être qu'il y a chez vous, Santiago Gamboa, quand vous parlez de l'instauration d'une république de la bonté. C'est vrai que chez vous, d'ailleurs, dans vos deux romans, la religion a un rôle extrêmement ambigu. Évidemment, dans La Conquête, la colonisation se fait au nom de Dieu. Il faut convertir les Indiens à la foi chrétienne. Les conquistadors eux-mêmes sont frappés par les sacrifices humains faits par les prêtres aztèques. Et d'en retourner dans l'Obscure Vallée, Santiago Gamboa, on voit que le catholicisme est évidemment très ancré, mais par exemple Manuela, qui va devenir une grande poétesse, vit une jeunesse dans une sorte de pensionnat religieux, qui est le lieu de toutes les débauches, sexe, drogue, tout est là, de façon très effrénée. On a même l'impression qu'elle est dans une hallucination mi-mystique, mi-physique. Le père Palacios lui mène la guérilla pour récupérer ses fidèles. Et vous inventez même un fils du pape, il s'appelle Tertuliano, qui dit en fait, voilà, Francisco, le pape François, en fait c'est mon père, il est venu en Colombie, il a rencontré cette femme, ils se sont étreints. En fait, sans cesse se mêlent justement la religion et la paix. Est-ce que c'est une vision pessimiste, acerbe de la religion ou elle est nécessaire?
Non, mais il faut penser que les religions aussi sont très liées avec l'idée de la violence. Si on pense... Toutes les religions commencent avec une grande bataille entre le bien et le mal. Il y a toujours l'idée du vainqueur et des vaincus. Seulement qu'avec les guerres religieuses, et celui qui gagne a le droit de convertir à l'autre. Et les perdants perdent aussi, c'est Dieu. Combien de guerres de religion on a vu dans l'histoire? On continue à les voir aujourd'hui. On subit toujours, ici en Europe, le terrorisme qui est lié à une idée religieuse extrémiste. Et donc, la religion était toujours en Amérique latine, et quand les Espagnols sont arrivés avec leur contre-réforme religieuse, c'était l'idée de la conversion à la force. Ils arrivaient avec l'épée et la croix.
Donc il y a une continuité, quand vous nous parlez des guerres justement paramilitaires aujourd'hui en Colombie et qu'il y a ce rapport à la religion, ou quand votre jeune fille, Manuela, qui va devenir cette poétesse, est totalement marquée dans sa chair et dans son esprit par une violence énorme qui a lieu sur le lieu même de la foi, de la religion, quand on est jeune femme dans un pensionnat religieux, vous voulez maintenir le fil d'une tradition historique sur cette terre-là, la religion et la violence ont été imbriquées?
Oui, parce que je pense que la religion n'a pas suivi, ou très peu suivi, son chemin philosophique. Par exemple, en Colombie, elle était toujours du côté du pouvoir, toujours du côté de ceux qui ont l'argent, toujours du côté de ceux qui ont utilisé la guerre pour anéantir d'autres parties de la population. Il y a eu, bien sûr, en Amérique latine aussi, la théologie de la libération qui a été la vision contraire.
Oui.
Voir Jésus du côté de pauvres. Oui. Mais c'est rare. C'est
voir
plutôt une religion
Guevara,
violente.
Ailleurs,
exactement.
Voilà.
Et donc, c'est à cause de ça qu'on voit toujours, en Amérique latine, des dirigeants politiques de gauche qui sont catholiques. Mais là, disons, la normalité, c'est le contraire.
Je voudrais qu'on vous entende lire un extrait de Retourner dans l'Obscure Vallée. Il s'agit du viol de Rimbaud, voilà, parce qu'évidemment, il y a cette figure de Rimbaud qui unit tous vos personnages. Et la poésie est là, dans ce livre, on vous écoute, Santiago Gamboa.
Oui, des soldats ivres le violeront dans les toilettes de la caserne Babylone à Paris. Était en avril ou en juin de 1871, peu importe. Dans cette enceinte au mur gris, le jeune rebelle s'était déguisé en homme adulte pour être accepté. Sa passion politique était forte et sans doute sincère, et cette caserne offrait abri et nourriture aux recrues. Arthur était arrivé à Paris sans le sou, comme à son habitude, et la caserne était d'autant plus une bonne solution qu'il avait le désir ardent de s'engager dans la garde nationale. Nombre des soldats de cette caserne venaient de combats des tranchées contre les Allemands et avaient vu les cadavres de leurs camarades pourrir à côté d'eux ou sous leurs bottes. C'étaient des hommes aguerris. L'odeur de la mort sur les champs des batailles vrille la mémoire. 10 000 corps dans la bouée et sur eux, 20 000 ou 30 000 vivants qui continuent à se battre. Le corps se déforme. Le sang s'accumule dans la terre et soudain quelque chose éclate. Un jet de nauséabonde éclabousse la boue. Les oiseaux se présentent en volette et arrachent les yeux. Les vers grouillent à fleur de terre. C'est ce que voit un soldat dans la bataille. Les os à nu de l'ami, les membres arrachés, les crânes perforés. Un regard de torve garde dans la rétine ce qu'il a vu et personne qui a contemplé cette horreur ne peut redevenir lui-même. Quiconque survit à une guerre, même indemne, est un blessé de guerre. C'est quelqu'un qui non seulement a regardé la mort dans les yeux, mais qui a couché avec elle, l'a embrassée sur la bouche, qui l'a serrée dans ses bras en lui chantant des berceuses.
Merci Santiago Gamboa. Retourner dans l'obscure vallée, c'est un extrait de votre nouveau roman qui paraît chez Métellier. Alors je le disais, c'est un roman qui est explosif, qui est baigné de sexe, de violence. Mais il y a la poésie, puisque plane sur tous les personnages cette figure tutélaire de Rimbaud, que vous appelez le poète de la fuite, celui qui a fait du départ un des beaux-arts. C'est un peu le dieu de tous les errants de ce livre. Mm-hmm. Était-il nécessaire de rédimer, de donner une rédemption à vos personnages à travers justement la figure de Rimbaud, donc le dieu de la poésie?
Oui, je pense que toutes les souffrances de la vie et de l'histoire et du monde peuvent être touchées par la littérature et par la poésie et devenir quelque chose de contraire, différent, positif. La littérature, c'est toujours une façon de sauver ce qui peut-être dans la réalité a été injuste et cruel. La littérature fait devenir deux choses surtout, beauté et connaissance. Même les expériences les plus horribles peuvent être transformées par la poésie et par la littérature dans connaissance et beauté. Et ça, c'est l'histoire de l'humanité aussi. La littérature existe, comme les arts aussi, pour donner du sens à la souffrance. Et le bonheur, en général, a peu de littérature. Parce que le bonheur se suffit à lui-même.
Les gens heureux n'ont pas d'histoire, comme on le dit en France. Ouais.
Oui, justement.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une idée un peu, pardon, mais c'est peut-être beau hein, d'ailleurs, la naïveté de penser que face à tous ces massacres, ces violences, on peut trouver un salut. Il y a quelque chose de très mystique, un salut dans la poésie.
Eh bien, oui, bien sûr que c'est mystique, parce que je pense que la littérature en général et les arts, c'est une façon d'exercer une certaine spiritualité. C'est une façon de donner une rédemption à ce qu'on a vécu. Et même, moi je ne suis pas croyante, j'ai un grand respect pour les croyances, mais je ne suis pas croyante. Mais je vois en tant que non-croyante, dans les religions, je vois un peu comme la rencontre de tous les arts. Pour moi, la religion, c'est la grande rencontre de tous les arts. Il y a du théâtre, il y a de la philosophie, il y a la poésie, il y a la peinture, la musique, la sculpture, l'architecture. Et donc, la religion, c'est aussi une façon de donner la possibilité aux gens qui souffrent dans la vie de transformer cette souffrance en quelque chose de bon.
Un récit, en fait.
Ben voilà.
D'avoir un récit, d'avoir
exactement,
une histoire. Il y a quelque chose quand même qui peut être très choquant dans votre livre. Alors, c'est l'un de vos personnages hein, qui dit ça, mais bon, il est bon d'écrire en pleine tempête, ça, on est d'accord. La littérature s'écrit aussi quand le sang coule dans les rues, que le dernier héros est sur le point de tomber, fauché par une rafale, ou que la tête d'un enfant s'écrase sur la chaussée. Une autre citation encore, une de ces histoires qui veulent produire, c'est Manuela hein, qui en parle, une de ces histoires qui veulent produire de la beauté avec les choses les plus moches et les plus sales de la vie. C'est presque baudelairien, là, de la charogne naît finalement une forme de beauté. Manuela, c'est vous, Santiago Gamboa, cette façon de, cette éthique presque, écrire en pleine tempête, écrire au cœur du sang qui coule.
Oui, je pense que le poète et l'écrivain en général, tout ce qui est bon pour lui, peut-être c'est pas bon pour la société qui l'entoure. Parce que on le voit aujourd'hui dans les sociétés, dans les pays du monde qui ont beaucoup plus de souffrances. Il y a énormément de sujets extraordinaires pour la littérature, mais c'est pas du tout agréable de vivre ces moments de grandes difficultés. Il y avait le baron Rothschild qui disait ça, qui disait quand, bon, lui, il le voyait pas du côté littéraire, mais du côté de l'argent. Il disait, quand le sang coule dans la rue, achète. Il faut acheter. Donc, l'écrivain est quelqu'un qui cherche des sujets et qui subit parfois lui-même des choses importantes, mais après, il fait avec ça et connaissance et beauté. Et donc, c'est bien.
C'est drôle parce qu'on en parlait avec les femmes tout à l'heure avec vous, Alexis Génie, dans cette idée d'Eldorado, finalement, puisque retourner dans l'obscure vallée, c'est aussi, alors c'est curieux parce que vous dites obscur, enfin c'est William Blake qui le dit, mais c'est l'Eldorado, c'est ce que les Espagnols appelaient l'Eldorado parce que c'était le lieu de l'or mais aussi Alexis Génie, on en parlait tout à l'heure, le lieu des femmes, qui était confondu dans la rêverie d'un peuple amazone.
Oui, c'est vrai qu'on y croyait. C'est-à-dire que dans le 16e siècle que je décris, on a une géographie imaginaire. On imagine des tas de choses. On est imprégné de légendes bibliques, de romans de chevalerie. Et le royaume des Amazones, on y croit.
Alors c'était quoi ce royaume des Amazones d'ailleurs?
Ah bah alors c'est...
C'est pas le même qu'à l'époque grecque antique. Alors, on parlait de la guerre de Troie.
On l'avait plus ou moins localisé dans les plaines de Scythie, donc du côté de l'Ukraine. Mais bon, on imaginait que ça pouvait avoir, dans le Nouveau Monde, on pensait que ça pouvait exister. Et dans le contrat officiel qui liait Cortés au gouverneur de Cuba, il y avait dans les derniers...
Contrat d'expédition.
Où on lui disait ce qu'il devait faire pendant cette expédition. Entre autres, il y avait se renseigner sur l'existence du royaume des Amazones, qui devrait peut-être être par là. Et puis également se renseigner sur ces peuplades à tête de chien qui se nourrissaient du parfum des fleurs, dont on avait entendu parler dans des vieux récits, mais peut-être que c'était là. Je rappelle qu'en 1513, une expédition a été lancée en Floride pour trouver la fontaine de Jouvence, sur le récit d'un Indien qui disait qu'il y avait une fontaine quand on y plongeait. On perdait toutes les atteintes de l'âge et de la maladie. On s'est dit, ça y est, la fontaine de Jouvence, on lance une expédition qui disparaît dans les marécages de Floride. Mmh. Mais c'est pour ça aussi que j'ai appelé cette conquête des îles de la terre ferme, qui était quelque chose d'assez étrange, on ne sait pas trop ce que c'est, mais parce qu'ils ne savaient pas où ils étaient, ils ne savaient pas où ils allaient.
C'est une expression qui est d'époque.
Complètement, il y a un livre de Diego Durán qui, c'est l'histoire des Indes de Nouvelle-Espagne et des îles de la terre ferme. Enfin, je trouve ça tellement extraordinaire que j'ai voulu le mettre en titre.
Une île de la terre ferme.
En fait, la terre ferme, tout simplement, c'était Panama, et on pensait que ce qui était autour n'était que des îles, et qu'il suffisait de zigzag entre les îles pour passer dans l'autre océan qui emmenait en Chine, qui était le vrai but.
Il y a une chose qui me frappe d'ailleurs dans vos deux livres, d'ailleurs je vais vous citer tous les deux, je vais commencer par La conquête d'Alexis Génie. J'ai peur d'être arrivé innocent. Innocent c'est lui, c'est le personnage. J'ai peur, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus rien à trouver. J'aurais aimé lui donner tort par bonté, par respect de ce qu'il fut, par pitié pour ce qu'il est, mais je n'ai que l'imagination à lui proposer. Et chez vous, Santiago Gamboa, d'en retourner dans l'obscure vallée, je pensais que nous devrions partir, différer une fois de plus le retour définitif, mais de nouveau, je me demandais où. Je n'étais pas Ulysse pour revenir auprès d'une femme. Aucune île, scène de la terre ferme, aucune île ne m'attendant dans le monde. Le seul retour possible, me dis-je, serait un lieu vierge de tout souvenir, revenir là où j'avais rêvé d'aller et n'avais pas pu. Mais quel était ce lieu? Et je me suis demandé, en vous lisant tous les deux, et on va en parler aussi avec vous, Alexis Génie, si finalement ce nouveau monde, cette Amérique latine, n'est pas finalement non seulement le lieu où l'on n'arrive jamais, mais un lieu qui interdit totalement toute possibilité de retour ou d'arriver ailleurs. Est-ce que c'est pas parce que ce territoire a été tellement fantasmé qu'il a perdu de sa réalité?
Oui, je pense que justement là, dans le regard européen de la conquête, parce que les Espagnols c'était des Européens, tout ça a une trace dans la littérature. Donc aujourd'hui, la littérature latino-américaine, depuis peut-être moitié du XXe siècle, a commencé à raconter pas la grandeur des montagnes, pas le fleuve, pas les arbres et la nature, mais les gens qui vivent là-bas. Et ça, c'est le changement de regard. Avant, quand c'était des Espagnols, par exemple, qui racontaient ce qui s'est passé dans l'Amérique latine, ils étaient absolument surpris et merveillés par la nature. C'est quand les successives générations ont créé ce qu'on pourrait appeler les écrivains latino-américains, même si Carlos Fuentes dit que les premiers écrivains latino-américains, c'était les chroniqueurs comme Bernal Díaz del Castillo, mais les écrivains latino-américains, quand ils ont commencé à raconter, pas seulement les montagnes, mais s'intéresser de qui c'est qui vit là-bas, quels sont leurs problèmes, à quoi ils pensent et qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Donc oui, là, je pense que c'est aussi un problème de narrative et de regard, et du point de vue. Où est-ce qu'on place le point de vue de départ?
Alors Alexis Génie, donc, après L'art français de la guerre, je le disais, vous publiez ce nouveau roman sur la guerre aussi, mais qui se déroule cette fois-ci du côté de l'actuel Mexique, au XVIe siècle. Dans La conquête des îles de la terre ferme, vous imaginez donc un narrateur nommé Juan de Luna, qui écrit une chronique, finalement, ça doit vous plaire ce que dit Santiago Gamboa. Les antécédents de Carlos Fuentes, c'est justement votre personnage. Il est le secrétaire d'Hernán Cortés, qui le surnomme Innocent. Il est devenu riche, il possède des terres dans ce nouveau monde, mais il voit devant lui la population indienne totalement décliner, se laisser mourir, ne plus vouloir faire d'enfants. Et il va nous raconter, vous le racontez extrêmement bien, de façon flamboyante, sanguinolente aussi, la nature est très présente, ce choc en fait culturel, ce que Todorov avait appelé une sidération, hein, entre deux peuples qui ne se connaissent pas, mais finalement dont l'un va l'emporter de façon extrêmement violente sur l'autre. Ce qui est intéressant, c'est la tension qui existe entre deux modèles narratifs dans ce livre. Il y a à la fois le témoignage, la chronique fidèle qui est faite à la première personne par votre narrateur, qui nous raconte les caciques, les forêts, Quetzalcoatl, les bateaux dont rêve Cortés pour continuer la conquête encore plus loin. Et puis, les romans de chevalerie qui l'ont nourri pendant sa jeunesse, notamment au monastère. Et vous nous parlez d'Amadis de Gaulle, qui est son grand modèle, qui est un roman de chevalerie publié à Saragosse en 1508, de Garcia Rodriguez de Montalvo, qui raconte d'ailleurs la quête des origines d'un jeune garçon qu'on appelle le damoiseau de la mer. On est totalement, c'est déjà le conquistador.
Alors, ce qui est fascinant, c'est que ce roman de chevalerie, donc 1508, c'est 10 ans avant l'arrivée au Mexique. C'était un livre qui était très connu, très publié, très lu. Et c'est un mode de littérature qu'on a totalement oublié, qui est un peu inconsistant. C'est une sorte de quête. C'est l'aventure. C'est un chemin qu'un héros va suivre. Et au cours de son chemin, il va rencontrer des occasions de faire des prouesses, de sauver des jeunes filles, de tuer des méchants chevaliers, etc. Alors j'en ai lu quelques centaines de pages, mais bon, c'est totalement...
Seulement.
Au bout d'un moment, ça lasse pour un lecteur du 21e siècle, c'est un petit peu compliqué. J'en ai donné une version un peu remixée, mais bien resserrée.
Alors c'est intéressant, une version remixée, expliquez.
C'est-à-dire que à partir de vrais extraits d'Amadis de Gaulle, j'en ai fait une version qui est moins longue, moins digressive, quelques pages qui puissent être lues en fait, quelque chose d'un petit peu plus concentré, pour donner un peu une idée de ce que pense un type du XVIe siècle. Parce que finalement, au XVIe siècle, qu'est-ce qu'ils ont comme grille pour lire la réalité ? Ils ont la Bible et des romans de chevalerie. Et ils vont essayer de comprendre ce qu'ils voient au Mexique par ces deux grilles-là. Et ça marche pas du tout. Mais c'est pas grave, ils ont que ça, donc ils vont essayer de faire rentrer de force la réalité dans les grilles. Et à l'envers, les Mexicains, qu'est-ce qu'ils ont pour lire la réalité ? Ils ont leur système mythologique extrêmement raffiné, complexe, subtil, etc. Et le surgissement de ces hommes, dont ils n'ont pas d'idée, dans leur monde, est totalement incompréhensible. Et c'est deux incompréhensions qui se regardent et...
Qui se regardent et qui
finissent par se battre et s'entretuer.
Santiago Gamboa, je voulais
dire. Je voulais juste ajouter qu'il y a un autre élément qui est dans le même sens de ce que tu dis, Alexis, et c'est que même pas le langage suffit. Parce que l'espagnol qui arrive avec les Espagnols, c'est un langage qui n'a pas de mots pour nommer tout ce qu'ils voient tout le temps. Donc ils sont tout le temps en train de signaler, comme dans Cent ans de solitude, signaler avec le doigt le chose, parce que l'espagnol n'avait pas de nom pour cela. Donc c'est sympa aussi de voir comment la langue espagnole a été, d'une certaine façon, colonisée par la réalité américaine, parce qu'elle a dû s'élargir, elle a dû se mêler de tout ce qui était les langages indiennes pour pouvoir nommer la nouvelle réalité.
Conquérir finalement une terre aussi grâce au langage de l'autre, en fait.
Oui, oui, oui. Et dans le cas des Indiens, il y a un élément que Carlos Fuentes mentionne, et c'est les chevals. Parce que eux, les Espagnols, avaient des chevaux.
Et ben justement, on va écouter un passage concernant le cheval, un passage de votre roman Alexis et Jenny. On est en pleine bataille, et on va voir aussi comment vous avez l'art de nous plonger au cœur du chaos des hommes et des animaux, et du métal et des tissus.
Mais dans la mêlée, les cavaliers manquaient d'espace. Ils piétinaient sur place, encourageaient leur monture de la voie, jouaient des rênes et de l'éperon. Et les chevaux piaffaient, se couvraient d'écume, bavaient de la mousse de sang au coin de leur bouche. Ils avaient du mal à se dégager. Les Indiens les serraient de près. L'un d'eux parvint à saisir la lance de Juan Sedano, qui était adroit mais ne put se dégager. Bloqué, il fut estafilé aux jambes et aux bras, et un guerrier à l'enseigne pourpre fit tournoyer son espadon et d'un seul coup trancha la tête de sa jument. De l'encolure ouverte jaillit un gros bouillon de sang qui éclaboussa le torse de l'homme qui hurla de joie. Le corps sans tête s'effondra avec des spasmes, entraînant au sol le malheureux Sedano, et tous se précipitèrent. Nous nous battîmes avec acharnement pour sauver le cavalier qui râlait, incapable de se défendre. Les Indiens tiraient à eux le cadavre du cheval. Et c'est Andrés, je crois, qui eut la présence d'esprit de couper les sangles pour récupérer la selle. La jument et sa tête furent emportées et disparurent dans la foule confuse. Nous étions dans une telle mêlée que nos pieds s'entrelaçaient, nous trébuchions, nos boucliers heureusement nous protégeaient mieux que les leurs. Nos casques résistaient à leurs épées de pierre et nos lames aiguës leur étaient mortelles. Ils finirent par se retirer, laissant des morts sur le sol. Nous avions des blessés par dizaines et certains avaient du mal à se relever.
La conquête des îles de la terre ferme, c'est le nouveau roman d'Alexis Eugénie qui est publié chez Gallimard. On vous a entendu lire, parler d'Espadon, parler de sel. Vous disiez tout à l'heure, j'ai lu Amadis de Gaulle et j'en ai produit une sorte de remix, hein, c'est ce que vous disiez. Est-ce que vous avez voulu écrire plus un roman d'aventure qu'un roman historique, je vais dire hystérique.
Il y a aussi d'ailleurs
il y a un peu d'hystérie dans le roman d'aventure.
Comme quoi la conquête espagnole serait avant tout une épopée chevaleresque d'hommes nourris de fiction eux-mêmes qui se rêvent en héros finalement sans l'être vraiment. Est-ce que c'était ça votre rapport aux sources, votre rapport à la réalité par rapport justement à cette magie et ce torrent de fiction dans lequel vous nous emportez?
Oui, j'ai voulu construire une sorte de roman épique, quelque chose à un roman à grand spectacle d'une certaine façon, bon, par goût personnel pour le grand spectacle, voilà, c'est j'aime ça. Et aussi je crois qu'il y a quelque chose de réel là-dedans, c'est-à-dire que ces hommes qui sont partis là-bas y allaient pour des raisons pragmatiques. Bon, s'enrichir, échapper à la pauvreté, échapper à la fin de la Reconquista espagnole. C'est-à-dire que voilà, il y avait des hidalgos qui étaient sans ressources autres que leur épée. Et ben, ils sont partis finalement, alors soit dans les guerres d'Italie, soit dans le Nouveau Monde pour essayer d'arracher un petit peu de fortune. Et puis il y avait cette idée d'aventure, de découverte. Bon, ce qui est fascinant, par exemple, c'est Cortés. C'est-à-dire, il a conquis un empire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il construit des bateaux pour aller au-delà. Et il envoie des expéditions en espérant trouver le Japon, la Chine. Alors, il trouve la Basse Californie, qui est un endroit assez désertique. Mmh. Donc, il ne voit que des baleines et des oiseaux de mer.
Et des femmes.
Et voilà,
aussi.
Alors des femmes un peu mythologiques. Voilà, voilà. C'est, bon, et en fait, voilà, la fin de vie de Cortés est un petit peu triste, puisque il aimerait bien repartir encore, repartir pour l'aventure avec un grand A, mais finalement, il est arrivé au bout.
D'ailleurs, oui, enfin, sans dévoiler la fin, je parlais du retour impossible, retourner dans l'obscure vallée. Il y a un peu de ça aussi chez vos personnages, Alexis Eugénie, puisque la fin, le dialogue entre Juan et Cortés, c'est ce que je lisais. J'ai peur d'être arrivé innocent. J'ai peur, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus rien à trouver. On sent que le récit qu'on en fait est plus important que...
Alors je crois que toujours, c'est-à-dire que c'est un récit qui nous pousse et après on va faire un récit de ce qu'on a vécu pour essayer de survivre à ce qu'on a vécu. C'est la littérature qui nous font, alors la littérature en général, donc les récits en font partie, les récits collectifs en font partie, c'est ce qui nous permet de lire le monde, qui nous pousse vers l'action et puis après qui essaie d'interpréter l'action. Alors j'avais donné une petite citation au départ, mais qui est tirée de romans de chevalerie médiévaux, voilà. La dame était endormie et portait les armes de l'amour, une bouche d'un rouge étincelant, vrai tourment pour les chevaliers. La dame dormait. C'est donc vous, dame aventure? Que voudrais-tu trouver? Aventure, pour éprouver ma prouesse et ma hardiesse. Je ne sais rien de l'aventure, et jamais je n'en ai entendu parler.
Et ça, c'est que vous mettez en exergue.
Voilà.
C'est quelque chose
qui date du XIIIe siècle. C'est le roman de chevalerie classique de l'époque de Chrétien de Troyes. Et il y a cette idée-là, c'est-à-dire, on part à l'aventure, mais en fait, il y a une mélancolie de la conquête, on n'arrive jamais, elle échappe, et on n'arrive jamais au but. Mais on y va.
Wolfram von Eschenbach. Voilà.
Bah, c'est lui qui a écrit Parsifal, qui est bon, voilà, un roman de chevalerie classique.
Alors vous citez, je voudrais qu'on dise un mot quand même de cette chronique de la grande cité, parce qu'il y a un passage dans le livre où on parlait d'entremêlement tout à l'heure, de mélange, de métissage, hein, avec vous Santiago Gamboa aussi. Vous citez, et en italique, un texte que vous intitulez « Chronique de la grande cité ». Il y a à la fois Amadis de Gaulle pour le côté chevalerie occidentale, et cette chronique de la cité qui serait en fait le récit des avancées des Espagnols, mais raconté par les Indiens. Ce texte existe, ce texte
est... Alors non, ça, c'est moi qui l'ai écrit, mais je l'ai écrit à partir de deux chroniques qui existent.
J'ai pas trouvé
voilà.
La trace.
Non, pas du tout. Alors ça,
chronique de la grande cité.
C'est moi qui l'ai inventé ça. Mais il existe des textes indiens, mais qui ont été écrits après. C'est-à-dire que les textes d'avant ont tous été détruits pour des raisons idéologiques et religieuses par les Espagnols. Mais 20 ans après, il y a eu tout un travail anthropologique qui a été mené par les franciscains et d'enquête pour connaître quelle était la société aztèque, quelle était la religion aztèque. Alors c'était dans le but de bien extirper la religion des Aztèques, hein, pour être bien sûr qu'ils fassent du vrai christianisme. Mais n'empêche que du coup, on a tout un travail qui a été fait de mémoire. Et le style de ces chroniques, le style de ce qui a été rapporté, le style de la poésie aussi aztèque, est quelque chose d'assez emphatique, rythmé, quelque chose qui est lié aussi aux cérémonies, à la danse. Bon, on peut retrouver en lisant entre les lignes quelque chose qui serait comme une sorte d'image fantomatique de ce qu'a pu être le monde aztèque. C'est-à-dire que je n'ai pas inventé de personnage indien parce que je me sentais pas vraiment légitime pour inventer quelqu'un de ce monde-là. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu perdu. On peut faire que des hypothèses. Donc, je me suis basé sur ces traces textuelles qu'on a. Et donc, ces pages-là, elles essayent de retrouver un ton particulier, un ton poétique particulier, pour essayer de dire quelque chose de la vision des Indiens.
Je vous cite. Cela avait été écrit comme un poème, rythmé pour qu'ils s'en souviennent pendant la course, joliment dit pour être agréable, car rien dans le monde n'est juste s'il n'est beau. Ça pourrait être aussi la devise de vos personnages, Santiago Gamboa, ces personnages d'Amérique latine qui essaient de revenir, qui n'arrivent pas à trouver le lieu, comme si le lieu n'était que, peut-être, dans la beauté, dans la poésie dont parlait Alexis Génie.
Oui, dans la littérature. Oui, c'est des personnages, mais mes personnages, ils sont dans cette contradiction, parce qu'ils veulent rentrer dans un pays qui est nommé la République de la Beauté, mais il ne revient pas pour pardonner, ni pour se réconcilier. Il rentre pour faire une vengeance. Donc, eux-mêmes font partie aussi de tous ces côtés un peu violents.
Donc, c'est Ulysse.
C'est des Ulysses du passé, c'est des gens du passé.
Oui. Oui, qui revient pour se venger des prétendants.
Pour se venger. Mais voilà, on est toujours dans l'histoire de Homère. Parce que, on peut dire avec George Steiner, les critiques anglais, qu'il y a deux types de livres, l'Iliade et l'Odyssée. Donc, on se retrouve toujours soit avec l'Iliade, soit avec l'Odyssée. Et je dirais même que ton livre, Alexis, fait partie de la famille de l'Iliade.
Tout à fait. Oui.
Tu fais. Alors que peut-être le mien, c'est plutôt l'Odyssée. L'Odyssée. Ouais. Donc, bien, on est très bien ici.
Un mot d'Alexis Génie sur cette. Voilà, vous acceptez finalement cette.
Oui, alors, c'est vrai que.
Le peuple de l'Iliade, il y a le peuple de l'Iliade et le peuple de l'Odyssée, à ma gauche et à ma droite.
Tout à fait. Moi, je suis bien persuadé que le Homère, c'est la fondation de la littérature, enfin, au moins dans sa forme européenne. Ce que je connais, c'est vraiment fondateur et c'est quelque chose qui m'accompagne depuis que, quand j'étais petit, à, je sais pas, 7 ans, 8 ans, mes parents m'ont offert une version pour enfants de, voilà, et je l'ai lu et relu et relu et relu et je le lis encore.
Merci messieurs pour cette heure, voilà, qui de l'Amérique latine, de cette terre de violence et de beauté, voilà, nous ramène au plus vieux récit. Vous en êtes les dignes héritiers d'Homère, Santiago Gamboa, avec Retourner dans l'obscure vallée, d'ailleurs. Vous êtes l'auteur du syndrome d'Ulysse, ça tombe bien. C'est chez Métellier. C'est traduit de l'espagnol
par François
Gaudry. Et Alexis Génie, qui n'est pas traduit, voilà. Mais vous avez vous-même traduit un petit peu, au fond, cette pensée conquistador en français du 21e siècle avec la conquête des îles, de la terre ferme. C'est chez Gallimard. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et on se quitte en écoutant votre choix musical, Alexis Génie. El Refe de Instituto Mexicano del Sonido. Qu'est-ce que c'est que ce choix musical ?
C'est de l'électro-mexicain contemporain, c'est-à-dire quelque chose à la fois très contemporain, mais avec un son traditionnel mexicain.
Et ça vous a inspiré pour
Ah oui, j'ai écouté ça en boucle pendant un bon moment.
Merci à vous. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Anne-Laure Chanel à la réalisation. Pour la prise de son, Olivier Dupré. Cette émission a été réalisée avec la complicité de Marie Pernis. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter cette émission de manière illimitée sur franceculture.fr. Cette émission avec Alexis Génie et Santiago Gamboa sur le Nouveau Monde.
Los amigos de la calle me dijeron que no fuera para allá, que estuviera bien atento, la lucha libre está por comenzar. Una caída, dos caídas, tres caídas, cuatro voladores, no, uno caída, dos caídas, tres caídas, cuatro.
diciendo que el jefe de la lucha va a llegar. Por ahí andan diciendo que el jefe de la lucha va a llegar. Una caída, dos caída, tres caída, cuatro voladora stop, uno caída, dos caída, tres caída, cuatro voladora stop. Amigos de la calle me dijeron que no fuera para allá, que estuviera bien atento, la lucha libre está por comenzar.